Kiosque Magazine.
Jeudi 20 novembre de l'an 1 de la quatrième ère glaciaire, disons-le franchement. Je ne peux pas vous promettre qu'on va réchauffer l'atmosphère au cours de la prochaine heure en vous parlant d'économie et d'emploi comme Kiosque Magazine le fait tous les jeudis, mais nous, c'est-à-dire Éric de Belval et moi-même, François Brodeur, allons faire notre gros possible. Éric, qu'avez-vous prévu?
Eh bien, d'alimenter notre réflexion, cher François, et on va commencer par la nécessaire mondialisation de la fiscalité. Alors, vous le savez, la loi du marché, si elle n'est pas tempérée par une règle fixée, contrôlée par un État, elle se dirige naturellement non pas vers l'absence de règles, mais vers des règles qu'elle établit elle-même et qui n'ont pour autre but que le service de ses intérêts. Alors je prends un exemple, c'est l'évasion fiscale. Si l'on écrit sur des frontons, hein, on sait lesquels, aux États-Unis, que l'impôt est le garant de la démocratie, bah, il faut forcer les multinationales à le respecter parce que la démocratie ne les intéresse pas et l'optimisation et l'évasion fiscale sont des fléaux porteurs de chaos.
Et j'aurai moi aussi l'occasion de vous en parler.
Parfait. Alors, un autre sujet un peu plus léger, sur nos comportements alimentaires. Alors, on connaît tous les bons comportements alimentaires que la plupart d'entre nous adoptons, peu ou mal ou pas du tout.
Pas trop de sel sur votre poutine.
Oui, exactement. Surtout à la troisième assiette. À y regarder de plus près, ce ne sont pas là des comportements uniformes qui nous répartiraient en catégories bien différenciées. En fait, nous sommes pour la plupart en alternance dans nos comportements. Question de dosage alors, mais les risques restent bien réels, qui mènent à l'obésité, à la maladie, à une mort anticipée. Bonne raison pour se pencher sur l'économie de l'alimentation dite saine. Et on finira par le G20. Alors le G20, vous savez que Jacques Attali avait surnommé le G20 20 V-A-I-N. Et on comprend pourquoi. Ces grands sommets ne servent à rien, sinon à refaire la même photo des dirigeants souriants et réunis. Mais de courage politique, de grandes décisions prenant en compte l'arrivée de nouvelles générations, point. Rassemblement d'égo uniquement préoccupé d'intérêts nationaux et de réélection. Autrement dit, rien de très utile ni très rassurant. Attali a certainement raison. Pour l'éclairer, j'ai volontairement choisi un article qui a été écrit avant le G20 et qui décrit très très clairement tout ce qu'il faudrait faire. Autrement dit, tout ce que tout le monde sait. Et je pense que c'est d'autant plus pertinent de le lire maintenant. On s'aperçoit que rien n'en a été vraiment concrétisé.
Ah, j'ai hâte d'entendre ça. De mon côté, je vous parle d'efficacité énergétique, plus particulièrement de tous les bénéfices qu'il y aurait à économiser l'énergie. Le devoir s'est penché sur cette question. Il y a aussi un texte très, très, très intéressant dans la presse où Martine Letarte s'est interrogée sur est-ce qu'on forme mieux les personnes handicapées? Est-ce qu'on les diplôme plus? Et si oui, est-ce qu'elles s'intègrent mieux au marché du travail? On va voir que les réponses ne sont pas nécessairement évidentes. Mais pour commencer, eh bien, à moins de vivre sur une autre planète, vous le savez probablement déjà, oui, le plan de communication Énergie Est a été divulgué par Greenpeace. José Boileau revient là-dessus dans Le Devoir et c'est par ça qu'on commence dans quelques instants. Oui, or donc, Greenpeace l'a divulgué, le plan de communication qui devait faire en sorte qu'Énergie Est, que la société qui TransCanada Pipeline, qui promeut ce projet-là, vende le projet aux Québécois. Leur plan de communication, donc, a été rendu public. C'est pas beau ce qu'on a pu y lire en termes de manipulation et de démocratie. José Boileau a fait une petite montée de lait là-dessus dans Le Devoir et on va voir ensuite que le gouvernement du Québec, lui, semble-t-il profiter de l'occasion pour montrer une certaine fermeté dans ce projet. Je commence par le texte de José Boileau, publié dans Le Devoir du 19 novembre. Le porte-parole du projet Énergie Est et TransCanada se voulait rassurant mardi. Non, toutes les stratégies élaborées par la firme de relations publiques Edelman pour faire avaler son pipeline aux Québécois n'ont pas été retenues. Toutes, non, mais leur mise en pratique était très bien lancée. Lundi soir, 8 septembre, une soirée discrète et pourtant courue se tient dans un hôtel de Montréal. Que du beau monde. Parmi les invités, Denis Coderre, Michael Sabia, Thierry Vandal, Monique Leroux, Jean Charest, Gérard Deltel, Bernard Drinville, John Parizella. Quelques 200 personnes qui seront honorées d'un discours du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Arcan. Les absents, les journalistes. TransCanada, organisatrice de la soirée au cours de laquelle repas et alcool sont gracieusement offerts, a négligé de les convier. L'information coulera pourtant et sera dévoilée par la chaîne Argent. C'est aussi grâce à des fuites que cette fois que Greenpeace que pardon, c'est aussi grâce à des fuites cette fois faites à Greenpeace que l'on vient d'apprendre le plan d'attaque de TransCanada pour que son projet de faire transiter le pétrole albertain sous le sol québécois soit accepté. Dans ce plan détaillé, qui s'appuie sur une connaissance fine du Québec, on trouve une liste de personnalités susceptibles de vanter le pipeline Énergie Est. Messieurs Sabia, Vandal, Coderre, Parizella. Quant au ministre Arcan, dès le 10 septembre, en marge du Conseil des ministres, il vantait avec force le projet Énergie Est. Ajoutons encore que TransCanada fait partie de la vingtaine d'entreprises qui ont versé 20 000 $ lors de la réunion annuelle du Conseil de la Fédération en août, ce qui leur donnait le droit de souper avec les premiers ministres, dont Philippe Couillard. Et on nous dira ensuite que ces plans de communication soigneusement préparés des plus coûteux ne font que donner des conseils, laissant sous-entendre qu'au fond, on ne les suit pas vraiment. D'ailleurs, n'est-ce pas qui n'a pas de nos jours des idées pour communiquer? Les groupes écologistes, ces bloqueurs de projets n'en font-ils pas autant? Mais les écolos qui parlent aux journalistes, envoient des lettres aux médias et révèlent des documents secrets d'intérêt public, quand ils arrivent à en avoir entre les mains, ne tiennent pas, eux, de rencontres non publicisées avec des gens de pouvoir qu'on peut amener au Grand Prix ou à un concert de Kent Nagano ou manger au toqué, comme le suggère le plan élaboré par la réputée firme de relations publiques Edelman. L'importance du document obtenu par Greenpeace, c'est qu'en fait, on y lit noir sur blanc ce que l'on soupçonnait des manigances à la mode pour faire passer la pilule d'un projet qui ne passe pas. TransCanada n'est pas la seule grande entreprise à avoir ce type de stratégie sous la main qui joue avec les mots, qui évalue l'émotivité des médias locaux, qui cible les influenceurs, qui finance les scientifiques, qui paye pour que sur Internet, en toute apparence de neutralité, ces messages passent. Quant à la quête d'informations négatives sur les opposants, la réfutation du porte-parole Tim Dubois, le nouvel arrivé envoyé au front, tombait à plat. Admettons que TransCanada ne s'y soit pas encore prêté. Il valait la peine de lire en parallèle une nouvelle du Monde, mardi. Un dirigeant de la firme Uber a menacé d'étaler la vie privée des journalistes trop critiques. Ces choses-là se pensent bel et bien. Et elles ne se feraient pas? TransCanada fera profil bas dans les prochains jours. Mais son action se poursuivra, trop d'intérêts sont en jeu pour elle. Quant au gouvernement, sa défense de l'intérêt public, derrière lequel il se réfugie et réfugie, ne sera crédible que s'il agit en conséquence, qu'il cesse d'en parler et qu'il donne enfin au BAP le mandat d'étudier le projet de pipeline. Ce qui nous amène d'ailleurs à une autre nouvelle publiée, elle, dans la presse du 19 novembre, où justement, parmi les conditions que le gouvernement du Québec impose à TransCanada, il y a cette audition au Bureau d'audience publique en environnement, ce qu'on appelle un BAP. Cette étape-là est particulièrement intéressante et il y a fort à parier que TransCanada va tout faire pour s'y soustraire parce que, on le sait, actuellement, l'évaluation environnementale est menée par le gouvernement fédéral, mais non pas dans l'Agence d'évaluation environnementale, mais bien dans la Commission de l'énergie, qui a limité les sujets pour ne pas qu'on parle de réchauffement de la planète et de pollution globale, alors qu'à Québec, ce type de sujet-là va pouvoir être abordé et TransCanada ne veut absolument pas qu'on aborde ces sujets-là ou que ça devienne un considérant. Le fait que Québec ait exigé un BAP est donc une excellente nouvelle.
On savait que le pétrole est un liquide peu transparent et visqueux, mais on en a une belle confirmation.
Agir localement et penser globalement. C'est bon pour les gens ordinaires, mais est-ce que c'est bon pour les payeurs de taxes?
Écoutez, je sais, c'est sûrement des bons côtés. En tout cas, je vais vous donner l'avis d'un politicien, en l'occurrence le ministre des Finances fédéral allemand, qui s'appelle Wolfgang Schäuble, et qui a publié dans Le Monde une petite tribune sur la nécessaire mondialisation de la fiscalité. Alors, évidemment, il l'a décrit comme un fléau à combattre. On a envie de lui dire de mettre toutes ses forces dans ce combat, puisqu'il est aux affaires.
La fiscalité est un fléau à combattre?
Excusez-moi, j'ai dit la fiscalité, je voulais dire l'évasion fiscale.
L'évasion fiscale, hein, ok, pardon.
Oui, non, non, alors là, vraiment, c'est pas un lapsus.
Pour un ministre des Finances, c'était étrange.
Oui, 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 mais vous voyez, c'est parce que, peut-être, j'ai fait un lapsus, parce que je voulais dire que souvent, les hommes politiques servent des leçons qu'ils semblent n'avoir jamais apprises. Enfin bon, on va lui laisser un peu de crédit et puis voir si, dans l'avenir, il met en pratique ce qu'il écrit. En tout cas, ses écrits pourront lui être opposés. À mesure de l'accélération du rythme de la mondialisation et de la numérisation, de plus en plus de processus économiques revêtent une dimension internationale. Grâce au progrès des technologies de l'information, les entreprises sont en mesure de desservir les marchés sans pour autant avoir besoin d'y être physiquement présentes. Dans le même temps, la mobilité des sources de revenus se fait croissante. L'accent se porte de plus en plus sur des actifs incorporels et les revenus d'investissement mobile susceptibles d'être facilement optimisés, entre guillemets, d'un point de vue fiscal et transférés à l'étranger. On a déjà ici largement commenté ce que ce mot optimisé relevait en fait à la fois d'hypocrisie et de caractère mafieux.
C'est un euphémisme de classe olympique.
Oui, tout à fait. Or, la plupart des principes régissant l'application des taxes remontent à une époque à laquelle faire des affaires à l'international signifiait pour l'essentiel transporter des marchandises vers un pays situé de l'autre côté de la frontière. Les règles des années 1920 et 1930 ne sont plus en phase avec une intégration aujourd'hui internationale des processus économiques et des structures d'entreprise. Il nous faut les adapter à la réalité des services numériques. En l'absence de règles applicables, les États sont privés de recettes dont ils auraient besoin au plus vite pour assumer leurs responsabilités. Dans le même temps, la nécessité d'une taxation équitable se fait de plus en plus pressante. Revenons un instant sur le mot équitable. Il ne s'agit pas d'être équitable vis-à-vis de ceux qui ont des impôts à payer. Il s'agit que les impôts à payer soient à peu près payés selon les mêmes règles, selon les mêmes assiettes, selon les mêmes rôles dans l'ensemble des pays de même nature. Mm-hmm. Auquel cas, il n'y a plus d'équité si on ne fait pas comme ça.
Et que les profits rejoignent les bons pays finalement.
Oui, exactement. Donc, dans la mesure où le nombre de contribuables fournissant une part adéquate au financement des biens et services publics va diminuant. L'étant, autrement dit, c'est très bien de couper dans les budgets de l'éducation. Pour faire des économies et rétablir les équilibres budgétaires, on serait peut-être moins tenté si les impôts étaient correctement récoltés. Les tensions entre la souveraineté fiscale des États et la portée sans frontières des activités d'affaires ne pourront être résolues qu'au travers d'un dialogue international et de normes mondiales uniformisées. Ça, c'est très important. Parce que si le marché est mondial, c'est lui qui imposera ses règles. Pour que des règles existent et soient appliquées, il faut qu'il y ait une instance au-dessus et qu'il soit une instance mondiale qui les impose et qui les fasse appliquer. Mais dans le monde d'aujourd'hui, les États, même les plus puissants, ne peuvent imposer aux autres ou appliquer seuls un cadre international. En revanche, et certains peuvent se regrouper pour être en mesure de le faire, comme cela est le cas pour la réglementation des marchés financiers et de l'économie numérique, et se mettent en place aujourd'hui pour la fiscalité. Bien optimiste, notre ministre, là. Hein. Le 7e rassemblement du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, s'est tenu à la fin du mois d'octobre à Berlin, a ainsi réuni les représentants de 122 États et juridictions aux côtés de l'Union européenne. Il a abouti à un accord conclu à l'initiative de l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Espagne, auxquels se sont ralliés environ 50 pays et territoires en tant que premiers signataires. Plusieurs autres États ayant fait part de leur volonté de se joindre à la démarche. Je fais part de ma volonté de me joindre à la démarche. D'accord. Où est la sortie ? Cet accord repose sur la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers élaborée par l'Organisation de coopération et de développement économique, la fameuse OCDE. En vertu de cette norme, les autorités fiscales sont en mesure de recevoir des informations de la part des banques et autres prestataires de services financiers et de les partager automatiquement avec les autorités fiscales des autres États. Ce qui est très bien, c'est un progrès, c'est parfait, tant mieux si on peut s'échanger ces domaines, ces informations. Mais ne confondons pas tout. C'est pas parce qu'on aura recueilli les données, en l'absence de réglementation qui s'impose à tous, qu'on pourra en faire quelque chose. Donc c'est très bien, mais c'est largement insuffisant. Diverses mesures permettent aussi aux banques d'identifier un titulaire bénéficiaire et d'en informer les autorités fiscales concernées. La norme CRS étend par conséquent la portée de la coopération entre les différentes autorités fiscales nationales. Nous sommes aujourd'hui capables de tracer un cadre réglementaire en phase avec la mondialisation de l'activité des entreprises. Ça revient à dire, je vais faire une promenade dans la montagne, j'ai une carte... Je trace le chemin, je sais exactement la distance qu'il faut parcourir, etc.
Et je la laisse à la maison.
Et je suis devant, je ne fais pas un pas en avant. Hein. Et alors, oui. Et je vous sers ça comme discours, et puis vous avez l'illusion de la promenade. Bien. Cette grande victoire, c'est le ministre qui parle toujours, dans la lutte contre l'évasion fiscale internationale, aurait été impensable il y a quelques années. Où est la victoire? Je ne vois pas. Il convient de poursuivre les efforts de l'OCDE et du G20. Alors là, si vous faites confiance au G20, les gars, vous êtes mal barrés. Dans ce domaine, nous devons faire en sorte que les démarches fiscales créatives, écoutez, créatives, non mais oh, on sait ce qu'il faut faire, il n'y a pas besoin de créer, il suffit d'appliquer, de réfléchir et de décider surtout, de type prix de transfert et réduction artificielle des bénéfices ne soient plus lucratives. Bah oui, et oui, ça oui, quelle évidence. La politique fiscale du chacun pour soi est aussi dangereuse que la mise en œuvre de politique monétaire du chacun pour soi, fondée sur une dévaluation compétitive de la monnaie. Cela n'engendre en effet qu'une affectation inappropriée des ressources, érodant en fin de compte la prospérité de tous. C'est pourquoi nous devons nous entendre sur des normes internationales uniformisées. Les progrès accomplis à Berlin nous démontrent que nous sommes en mesure d'atteindre cet objectif à condition de travailler ensemble. Excusez-moi d'avoir été un petit peu emporté, d'avoir commenté cet article de façon peut-être un peu excessive, mais cette autosatisfaction avec laquelle finit cet article me révolte.
Ouais, j'aurais deux considérations ici. La première, c'est qu'il s'agit quand même du ministre des Finances allemand. Et on sait que l'économie allemande n'est pas nécessairement celle qui veut bouger le plus actuellement sur la scène internationale. La seconde, c'est que toute divulgation, toute forme de nouvelle transparence est quand même un plus parce que ça va nous permettre de mesurer l'ampleur du problème alors qu'on en a... On parvient à peine à en dessiner les contours actuellement. Alors, c'est oui, une bonne nouvelle, mais c'est très, très fragmentaire, je suis d'accord avec
vous.
Found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. And lingered until my dreams came true. Still, for you are my thrill on Blueberry Hill.
I found my thrill.
Come climb the hill with me, baby.
On Blueberry Hill.
We'll see what we shall see.
On Blueberry Hill.
I'll bring my horn with me. I'll be with you where berries are blue.
The moon stood still.
Each afternoon we'll come
on Blueberry Hill.
Higher than the moon we'll go
and linger until
your wedding in June we'll go.
My dreams came true.
Papa thought it was buzz, but didn't it? The wind and the willow play.
Do you really love me?
Love's sweet melody. But all of those vows we made with her were never to be. Though we are part of the day, you're part of me, baby, still. For you are my thrill on Blueberry Hill. Bobby did that. Bobby did that.
Blueberry Hill, la voix inoubliable de Louis Armstrong, qui nous était proposée par Rémi Hermoso, qui met en onde cette émission et assure les choix musicaux. Parlons d'environnement, tiens, puisque Carl Rettino Parazelli, dans Le Devoir du 19 novembre, nous apprenait quelque chose qu'on soupçonnait déjà remarqué. L'efficacité énergétique rapporte gros. On peut faire de l'argent en économisant. Le Canada bénéficierait à long terme de centaines de milliards de dollars en retombées économiques tout en réduisant substantiellement ses émissions de gaz à effet de serre s'il investissait les sommes requises pour devenir un des chefs de file nord-américains en matière d'efficacité énergétique. D'ici 2040, chaque dollar investi dans un programme visant l'électricité, le gaz naturel et les autres combustibles fossiles liquides rapporterait annuellement 5 fois plus au produit intérieur brut national, conclut une nouvelle étude de l'Acadia Center, commandée par Ressources naturelles Canada. Il s'agit de la projection la plus optimiste contenue dans le rapport dévoilé mardi par l'organisation à but non lucratif dédiée à l'avancement des énergies propres. Cela représente la première analyse économique des impacts de l'efficacité énergétique à l'échelle du Canada, souligne la directrice du programme canadien de l'Acadia Center et co-auteur du document, Leslie Malone. En collaboration avec la firme montréalaise Donsky Expertise en énergie et l'Economic Development Research Group de Boston, les chercheurs de l'Acadia Center ont évalué les effets d'un accroissement des investissements et des programmes d'efficacité énergétique sur l'économie du pays. Les provinces de l'Est du Canada, dont le Québec, ont été scrutées à la loupe dans un rapport semblable publié en 2012, mais le gouvernement fédéral souhaitait élargir le portrait à l'ensemble du pays. L'étude appuie ses conclusions sur des modèles prédisant les coûts et les retombées économiques engendrées par de nouveaux programmes d'efficacité énergétique qui seraient déployés à travers le pays entre 2012 et 2040, selon 3 scénarios. Une réduction modeste, modérée ou élevée de la consommation d'énergie par rapport au niveau actuel. Ce 3e scénario, jugé ambitieux mais réalisable, correspond à un niveau d'effort qui rapprocherait le Canada de leaders nord-américains en la matière comme les États du Massachusetts, de la Californie ou du Rhode Island. Plus on est agressif, plus il y a des coûts importants, mais plus il y a de retombées économiques importantes. C'est le but de l'exercice, explique Bruno Gobeil, consultant principal chez Donsky Expertise en énergie. Par exemple, si toutes les provinces mettaient simultanément en œuvre de nouveaux programmes visant à la fois l'électricité, le gaz naturel et le mazout léger et lourd, le pays bénéficierait d'une augmentation nette de son produit intérieur brut variant entre 230 et 580 milliards de dollars au terme de la période étudiée. Le gouvernement fédéral mettrait également la main sur un maximum de 1,3 milliard de dollars en recettes fiscales nettes et parviendrait à créer annuellement jusqu'à 300 000 emplois. Les émissions de gaz à effet de serre du Canada diminueraient également de 82 mégatonnes au total. C'est le paradis, ce truc. Le rendement économique anticipé se divise en 2 catégories. La première englobe à la fois les dépenses que les participants ou les entreprises doivent effectuer pour acheter de l'équipement éco-énergétique et les emplois créés grâce à la bonification ou à l'ajout d'un programme. La majeure partie des impacts économiques prévus, soit près de 75 %, est cependant attribuable à la diminution de la facture énergétique. Un citoyen qui a plus d'argent en poche dépense davantage et une compagnie qui économise de l'énergie est plus compétitive, postulent les auteurs de l'étude. Tous les Canadiens bénéficient d'investissements qui réduisent le gaspillage d'énergie, donnent plus de pouvoir d'achat aux consommateurs et améliorent notre performance environnementale, résume Mme Malone. Les impacts économiques projetés tiennent par ailleurs compte des effets négatifs d'un investissement en faveur de l'efficacité énergétique, comme les coûts liés au financement des programmes et la perte de recettes fiscales en raison de la diminution des ventes d'énergie. La mise à jour des données concernant le Québec permet de tirer des conclusions semblables à celles obtenues pour l'ensemble du pays. Toujours selon les projections 2012-2040, le scénario d'intervention le plus énergique fait miroiter des retombées économiques totales de 118 milliards de dollars et des recettes fiscales nettes de 380 millions pour le gouvernement provincial. Les émissions de gaz à effet de serre chuteraient de 19 mégatonnes, soit l'équivalent de la pollution occasionnée par 4 millions de voitures, estime-t-on. Le Québec, comme toutes les provinces, peut en faire beaucoup plus pour augmenter l'efficacité énergétique. Et c'est très rentable, autant du point de vue économique qu'en ce qui a trait aux gaz à effet de serre, insiste M. Gobeil. Dans un contexte où le Québec tente de boucler son budget, on démontre qu'il s'agit d'un choix à considérer pour le gouvernement. Leslie Malone de l'Acadia Center souhaite que ce nouveau rapport soit pris en compte lors de la préparation du prochain budget fédéral. « J'espère que le gouvernement va en prendre bonne note », glisse-t-elle. Au moment d'écrire ces lignes, il n'a pas été possible de savoir si le ministre des Ressources naturelles du Canada, Greg Rickford, entend donner suite aux conclusions de l'étude. J'ajouterais personnellement que je suis tout à fait d'accord avec Leslie Malone. Ce serait un gros, gros plus à prendre en compte.
Quelques brèves au milieu de tous ces articles de réflexion. Ben, savez-vous que les profits d'Hydro-Québec sont en hausse de 12% au troisième trimestre? C'est intéressant, mais ces revenus stagnent. Pourquoi? Eh bien, parce que ces fonds de roulement, enfin, ils ont un fonds de roulement et une partie en dollars américains. Et ça, malheureusement, ben, ça plombe les résultats.
En tant que grand amateur de Royaume-Uni, de tradition britannique et d'institutions, je ne peux que m'offusquer. Il s'est passé quelque chose de dramatique en Angleterre, où dorénavant, les pubs seront libres d'acheter leur bière du brasseur de leur choix. Il faut savoir que dans la Grande-Bretagne, de manière générale, les pubs sont souvent propriété d'un brasseur qui le loue à un exploitant, qui va lui donner sa personnalité, mais il ne pourra servir que la bière de tel ou tel brasseur. Alors voilà, c'est la mise en bière du pub britannique.
Alors surtout, ne buvez pas de bière en conduisant. Et savez-vous que Mazda, qui veut étrangler ses concurrents, lance la garantie kilométrage illimité. Ça va bousculer les constructeurs rivaux. C'est à partir de 2015. Mais pour les gens qui ont acheté une voiture en 2014, c'est rétroactif. Pas mal.
Je poursuis avec deux nouvelles américaines inquiétantes. La première tient de la fiscalité. Savez-vous combien d'impôts ont payé les 30 plus grandes sociétés américaines aux États-Unis pour leurs opérations américaines? Réponse, moins 1,7 milliard, puisqu'effectivement, elles ne paient pas d'impôts et touchent des crédits d'impôts. Je vais même plus loin, je peux vous dire que la rémunération de 7 des 30 plus grands patrons américains a dépassé en 2013 le montant payé par leurs entreprises au titre de l'impôt fédéral. Ça va très mal. Et pendant ce temps-là, c'est ma deuxième nouvelle, et celle-là, elle est nettement plus inquiétante. Au cours de l'année dernière, aux États-Unis, il y a un enfant sur 30 qui a connu un épisode d'itinérance, c'est-à-dire que ses parents ne pouvaient pas le loger dans un établissement domestique autonome. C'est délirant.
C'est délirant, oui. Autre chose délirant, le Québec doit se préparer dès maintenant au changement climatique et il y a une dérive dans les paramètres climatiques qui s'exprime dans les températures, les précipitations, la fréquence et la durée des événements extrêmes, la couverture de neige, les changements du cycle de l'eau et cela des impacts de plus en plus concrets sur les gens, nous dit une étude qui devrait nous faire réfléchir davantage.
Et enfin, il y a un taureau irlandais qui va finir ses jours en Grande-Bretagne. Heureusement, il a été sauvé. C'était un taureau reproducteur qui finalement avait été destiné à la boucherie pour une raison toute simple. Il était gay et il y a un donateur américain qui a décidé de le sauver, n'est-ce pas joli? Alors, on se retrouve après la pause pour la deuxième moitié de cette émission. Restez à l'écoute.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
On est de retour pour la seconde partie de cette émission et on vous parle de super aliments. Moi, j'aime bien quand on parle de bouffe. On a des recettes?
Oui, des recettes, oui, pour essayer de voir où on en est entre nos pulsions, notre bon sens ou nos craintes en matière d'alimentation, à comment s'y retrouver entre comportements individuels plutôt irrationnels, avouons-le, et le filtre du marketing appliqué à l'alimentation de type sans sel, sans sucre, sans ceci ou sans cela.
Et sans plaisir.
Oui, ou supposé être saine. Alors, ça a inspiré un article à Marie-Ève Fournier dans la presse du 17 novembre. Êtes-vous du genre à vous payer un cupcake, une poutine, vous en parliez tout à l'heure François, ou un café garni de crème fouettée?
Allez-y,
moi je mets de la crème fouettée dans la poutine.
Tentez-moi.
Parce que vous travaillez fort et que vous le méritez bien. Êtes-vous plutôt du genre à privilégier les aliments santé parce qu'il faut réduire le sel et le sucre, augmenter sa consommation de fibres et éviter les agents de conservation? Bah, il y a fort à parier que vous êtes les deux à la fois.
Non, personnellement, je laisse le céleri aux gens amers.
Ah bon, je suis étonné. Les consommateurs ne sont pas unidimensionnels, mais plutôt multidimensionnels. Ils sont même parfois contradictoires. Leurs comportements alimentaires deviennent tantôt pulsionnels, tantôt intelligents, selon les circonstances, selon leurs humeurs, observe Guy Théroux, vice-président au marketing de Sobeys Québec. C'est Sobeys Québec, c'est IGA. Mm-hmm. tout un casse-tête pour les épiciers et les transformateurs alimentaires. Et ce n'est évidemment pas la seule constatation de l'industrie alimentaire en ce qui concerne le comportement des consommateurs. Plusieurs autres ont été évoqués lors d'une journée sur l'alimentation organisée par Sobeys récemment et à laquelle participaient ses fournisseurs. Sobeys-Offer observe notamment que dans un éternel souci de performance, les Canadiens veulent maximiser les bénéfices de chaque bouchée. Je maximise les bénéfices de chaque bouchée.
C'est scandaleux, c'est scandaleux.
Ah, c'est affreux. Et de chacune de leurs gorgées. Rien que là, j'ai plus soif en disant des phrases comme ça. C'est ce qui explique le succès de l'eau vitaminée de type Vitamin Water et le lancement de tous ces aliments additionnés de calcium. Jus Oasis Pause Santé, de protéines, céréales vecteurs, d'oméga 3, œufs Nature œufs, des fermes Burn Bray, d'inuline, biscuits, Prévencia de Leclerc, etc. Les transformateurs alimentaires auraient par ailleurs intérêt à créer des aliments bénéfiques à la fois pour le corps et la bonne humeur des consommateurs. On observe un intérêt pour les mood food, a indiqué Guy Théroux en citant les noix de Grenoble, le chocolat noir, les noix du Brésil et les huîtres parmi les ingrédients à privilégier. Tout ça me paraît extrêmement bizarre. Alors, les super aliments. La tendance est née avec les super fruits, un terme inventé en 2005 par le marketing pour désigner les fruits qui contiennent plus d'antioxydants. Ça me rappelle la blague de Coluche, vous savez, quand il disait « on a une lessive qui lave plus blanc que blanc ». Et il dit « mais qu'est-ce que ça peut être qu'un blanc qui est plus blanc que blanc ?» Ben, qu'est-ce que c'est qu'un super fruit ? C'est un peu la même question.
Ben, il faut dire que personne ne mangeait des baies d'açaï, vous êtes rentré, on ne savait pas que ça existait ou que ça poussait au Brésil.
Ouais. Oui. Oui, évidemment. Alors, bon, bah, chez nous, il y a la canneberge, il y a les autres baies, le bleuet, mais il y a des fruits plus exotiques qu'on a ajoutés à la liste. La baie de goji, la baie d'açaï, les pommes grenades, aujourd'hui le chou frisé, les graines de chia, le quinoa, le varech, la chlorelle, font partie des aliments qui se font qualifier de super.
Je vous interromps juste une seconde parce qu'il faut que je vous parle de l'huile d'argan qui était très, très à la mode.
Ouais.
Il faut savoir que les huiles d'argan les plus chères sont des huiles. Évidemment, c'est une amande qu'on prélève dans la noix d'un fruit qui ressemble un peu à une olive, si vous voulez. Mais les huiles les plus chères, c'est les olives qui ont été mangées par des chèvres et qui sont grimpées dans l'arbre pour les manger et qui ont digéré le fruit et évacué la noix par des voies naturelles. Et ensuite, on ramasse la noix, on la fend, on ramasse l'amande et on fait l'huile avec. Et ça, c'est l'huile d'argan qui se vend le plus cher. Voilà, non, je l'ai dit. C'est...
bon, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer avec les protéines, mais je vais essayer. Généralement, dans les pays industrialisés, on mange trop de protéines. Mais 75% des consommateurs veulent en manger plus, observe Sophie Drénal. Le contrôle du poids, la volonté de performance sportive encourage la tendance. Résultat, les aliments à forte teneur en protéines, animales ou végétales, ont la cote. On n'a qu'à penser aux barres protéinées, aux céréales spécial K, aux sachets de gruau au Quaker. Et en France, Danone s'apprête à lancer le yogourt d'agneau, 3 fois plus riche en protéines que le yogourt classique. Alors après, il y a les produits sans. Sans gras, sans huile de palme, sans pesticides, sans hormones, sans OGM, sans agents de... sans rien.
Enfin, sans raison.
Fuyons sans raison, sans rime. La liste de ce que le consommateur ne veut pas manger ne cesse de s'allonger. Ce qui est bien, c'est qu'il faut payer pour ne pas avoir quelque chose. Loblo a d'ailleurs annoncé la semaine dernière avoir éliminé tous les arômes et colorants créés à partir de synthèses chimiques de ses 4000 produits de la marque Le Choix du Président. Agendas a mis en marché une gamme de crème glacée appelée Five qui contient seulement 5 ingrédients tous naturels. D'ailleurs, je rappelle à mes chimistes que toutes les odeurs existantes dans le monde ne sont que le fruit de la composition et du mélange de 5 gaz. Il faut se rappeler ça parce que c'est une bonne façon de revenir à de bons principes très simples. Alors, les grignotines, tiens, voilà, manger entre les repas est devenu monnaie courante. Ça, c'est pas bien, ça. Alors, 76% de la population mondiale grignote chaque jour. Hein. Et aux États-Unis, combien ? 90%, hein, étonnez-vous après, de certaines choses. Eh bien, c'est un marché en pleine explosion. Maple Leaf s'apprête à élargir sa gamme de collations protéinées en y ajoutant de petites brochettes de poulet mariné qui s'accompagnent d'une trempette et se mangent froides. Ah, je vous conseille ça à 7h du mat. Bon, alors après le troisième âge, tiens, c'est pour moi ça. Le vieillissement de la population touche aussi l'industrie alimentaire. Les personnes âgées veulent accroître leur consommation de calcium, de protéines et de fibres, mais diminuer leur apport calorique. Parfois, la mastication devient plus difficile et les sens sont moins aiguisés, ce qui suppose une adaptation des recettes. Eh bien, en France, par exemple, il y a des mets en petites bouchées qui se mangent avec les doigts. C'est pour les gens atteints d'Alzheimer qui savent plus à quoi servent le couteau et la fourchette. Bon, oui, je devrais pas rire, c'est pas drôle.
Oui, non, mais l'étape suivante, c'est le rôti déjà passé au mixeur pour être plus digeste.
Ouais, on peut peut-être faire intervenir vos chèvres là pour que, bon, enfin, on va arrêter là. Et puis le dernier point, c'est l'absence d'allergènes. En Europe, le tiers de la population se dit allergique à un aliment, même si en réalité, le taux que retient les études cliniques, c'est 2%. Mais bon, passons. Ça donne un genre de « Ah, je suis allergique à ci, à ça ». C'est donc pas un hasard si le marché du sans-gluten explose, un phénomène qui s'observe aussi de ce côté-ci de l'Atlantique. Selon Package Facts, le marché canadien des aliments sans-gluten a enregistré un taux de croissance annuel de 26% en 2012. Et le marché du sans-lactose progresse énormément, lui aussi, affirme Sophie Dorénal. Cela dit, ça, c'est plutôt un bien parce que le lactose, c'est pas une bonne chose. Voilà, j'ai terminé. C'est vraiment un inventaire à la Prévert dans lequel, j'ose pas dire, il y a à boire, à manger, mais presque.
J'avais une amie à Vancouver qui me racontait ses peines et ses misères chaque fois qu'elle recevait des gens, parce qu'il faut vérifier qui est allergique à quoi, qui mange quoi, qui ne veut pas manger telle chose, qui est végétarien, qui est végétalien.
Oui.
ça devient l'enfer. Martine Le Tarte s'est intéressée donc dans la presse à la scolarisation et la diplomation des personnes handicapées, ainsi qu'à leur accès au marché du travail. Ça nous donne un texte intitulé « Handicap et difficultés, plus d'accès à l'éducation, encore des défis pour l'emploi ». C'est un texte qui a été publié le 10 novembre, mais comme on n'en avait pas fait écho, c'est un texte qui m'apparaît particulièrement intéressant, je me permets de le rapporter en retard. Voilà, je le fais. C'est comme parler d'un texte d'un sommet qui n'a pas eu lieu. Les jeunes handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, on les appelle les HDAA, c'est beau comme vocabulaire encore, ont accès à énormément de soutien pour réussir à l'école et plusieurs se rendent maintenant aux études postsecondaires. Est-ce que cela se traduit par une meilleure intégration sur le marché du travail? Pas nécessairement. Olivier, prénom fictif, a un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Au secondaire, il réussissait bien et avait un intérêt marqué pour les technologies médicales. Toutefois, pour l'orienter vers une profession, il fallait tenir compte de ses limitations, particulièrement ce qui concerne l'interaction sociale. Impossible de le faire travailler directement avec les patients, par exemple. C'est une partie du travail que José Senneville, conseillère d'orientation à la commission scolaire René Lévesque en Gaspésie, a fait avec Olivier dans le cadre de son plan d'intervention. Un outil auquel il a droit pour favoriser sa réussite. Finalement, il a opté pour le diplôme d'études collégiales, technique de laboratoire. Nous avons eu plusieurs rencontres, notamment avec les services adaptés du cégep, pour organiser la transition, et le jeune est maintenant intégré, se réjouit José Senneville. Il a toutefois encore des défis à relever, comme les stages. Est-ce qu'il réussira à obtenir son DEC, puis à s'insérer en emploi? On ne peut jamais prévoir comment une personne évoluera. La réussite est liée à plusieurs facteurs personnels et externes. Dans les cégeps, le nombre d'élèves HDAA, je trouve ça horrible, horrible, c'est de la prose de technocrate, a augmenté de 475% entre 2007 et 2012. Dans les universités, il a plus que doublé en 4 ans. L'augmentation est exponentielle, particulièrement pour les gens avec des troubles d'apprentissage et un déficit d'attention. Alors, ces personnes réussissent davantage qu'avant grâce aux mesures de soutien développées, explique Franck Bouchard, conseiller au Comité d'adaptation de la main-d'œuvre, le CAMO, pour personnes handicapées. Les personnes avec des incapacités demeurent moins scolarisées que les autres, d'après l'enquête québécoise sur les limitations d'activité, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011. Toutefois, chez celles qui obtiennent un DEC et un diplôme d'études secondaires, l'écart est faible. Chez les gens de 15 à 64 ans avec incapacité, 28 % avaient un DEC comme plus haut niveau de scolarité, contre 32 % des gens sans incapacité. Pour le diplôme d'études secondaires, c'était 25 % pour les gens avec incapacité et 23 % pour les autres. Les écarts sont plus marqués pour le diplôme universitaire. 23 % des gens avec incapacité en avaient un, contre près de 32 % pour la population générale. Sur le marché du travail, les données montrent que les personnes avec des incapacités rencontrent plus d'embûches que les autres. Chez les gens de 15 à 64 ans avec incapacité, près de 64 % avaient un emploi. c'était 72 % chez les personnes sans incapacité. Il y avait 14 % de personnes sans emploi chez les gens avec incapacité et 6 % chez les autres. C'est embêtant de dire s'il y a une amélioration dans l'intégration et le maintien en emploi, d'autant plus que, pour des raisons méthodologiques, on ne peut comparer cette étude avec des précédentes, affirme Franck Bouchard, rencontré alors qu'il donnait une conférence le printemps dernier lors d'un congrès international organisé par l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Les employeurs sont toutefois généralement assez ouverts maintenant aux accommodements pour intégrer des personnes en situation de handicap. Particulièrement lorsqu'il est question de s'adapter la tâche et l'équipement de travail, précise M. Bouchard. C'est plus difficile lorsqu'il faut adapter l'organisation du travail. Nous tentons de montrer aux employeurs que plus de souplesse peut être positive pour l'ensemble des employés. Alain Dubois, conseiller d'orientation, a travaillé 30 ans en réadaptation et en insertion au travail de personnes handicapées avant de devenir chercheur à l'Université Laval. Il remarque que pour les employeurs, il est très important que les limitations ne diminuent pas la productivité, à moins que la perte soit compensée par une subvention. Les programmes existent, mais les besoins sont plus grands que les ressources, remarque-t-il toutefois. L'élève HDAA, encore, qui n'obtient pas de diplôme, risque davantage de ne pas s'intégrer dans le marché du travail, d'après José Senville, qui fait également de la pratique privée. Ils font généralement la formation préparatoire au travail dans les commissions scolaires pour les amener vers des emplois comme pompiste ou emballeur à l'épicerie, explique-t-elle. Ensuite, généralement, elle les oriente vers le service externe de main-d'œuvre pour l'intégration et le maintien en emploi. Nous essayons de faire en sorte que ces personnes particulièrement vulnérables aient un filet social, mais c'est moins évident lorsqu'elles décrochent, remarque-t-elle. Ces personnes sont celles qui ont le plus besoin de services, mais celles qui risquent le plus d'être oubliées. Pour en savoir plus sur les ressources disponibles pour les jeunes avec des besoins particuliers, www.choixavenir.ca/parents. Voilà, un texte intéressant. Et ça me rappelle ce texte qu'on avait abordé voilà quelques mois déjà sur une agence d'emploi qui ne place que des autistes parce qu'ils arrivent à faire des tâches que personne d'autre parvient à faire. Par exemple, trouver une erreur dans 15 000 lignes de code. Alors, ça nous en dit long sur l'intégration des personnes handicapées.
Je ne sais pas pourquoi je t'ai suivi un soir chez toi, mais en tout cas, je sais que depuis ce jour-là, on est heureux, si heureux tous les deux. J'ai changé grâce à toi. Oui, je l'avoue, je n'oublie plus mes rendez-vous. Je suis moins fou, la vie est comme un ciel tout bleu. On est heureux, si heureux tous les deux.
Franck Alamos, heureux tous les deux. Éric, je dois vous présenter mes excuses. J'ai douté de vous. Voilà, je voyais votre dernier sujet. Je me disais, mais ciel, il va nous parler après le sommet d'un texte qui a été publié avant pour nous dire ce qui allait se passer.
Oui, je l'ai fait exprès parce que j'ai trouvé que dans cet article de Claire Guélot, qui a été publié dans Le Monde du 14 novembre, donc avant le sujet, avant le congrès, enfin le G20 de Brisbane, eh bien, on avait vraiment la liste tout à fait claire de ce qu'il fallait prendre comme disposition, de l'état des lieux. Enfin, en tout cas, il suffisait au fond d'emmener cet article pour chacun des chefs d'État pour résoudre à peu près les problèmes et prendre les décisions. Et évidemment, on peut aussi faire le même inventaire, beaucoup s'y sont livrés dans beaucoup de journaux, après le G20, pour tirer exactement les mêmes conclusions. Ce qui prouve bien à quel point c'est quelque chose qui se situe en dehors du temps, c'est quelque chose qui n'a pas d'existence en fait. Alors, je m'empresse de dire qu'il faut saluer, notamment M. Harper, dont on ne dit pas toujours du bien ici, la façon dont dont il s'est exprimé vis-à-vis de M. Poutine était assez courageuse et assez bienvenue. Il n'a pas été le seul, mais je trouve que c'était bien. Bon, il ne restera que ça de ce G20, parce que comme d'habitude, pour tout le reste, il reste strictement rien. Et les grands défis concernant la planète, ils sont connus, les remèdes aussi. On pourrait s'attendre quand même, on pourrait attendre des principaux dirigeants de la planète à ce que les solutions soient apportées. Ça semble à peu près impossible. Alors, je essayais d'écouter ça en vous disant, tiens, c'est exactement la conclusion du sommet. Non, ça a été écrit juste avant. C'est à Brisbane, sur la côte est de l'Australie, que les chefs d'État et de gouvernement des pays du G20, y compris le russe Vladimir Poutine, se retrouvent samedi 15 et dimanche 16 novembre pour un sommet où la croissance, au ralenti depuis 5 ans, devrait tenir une large part. Le gouvernement australien devrait annoncer que les membres du G20, alors le G20, je rappelle que c'est 19 pays développés et émergents, ainsi que l'Union européenne, ça veut dire que c'est 90% de l'économie mondiale, ont identifié un millier de mesures pour accroître le produit intérieur brut planétaire de 2,3 à 2,4% d'ici à 2018, soit un surcoût de création de richesse de 2200 à 2300 milliards de dollars. Au terme d'une année 2014, marquée par plusieurs révisions à la baisse de la croissance mondiale et par la quasi-stagnation de la zone euro, la première région économique du monde, une telle annonce constituerait un succès pour Canberra. Dès l'automne 2013, l'Australie avait fait savoir par la voix de son énergique ministre des Finances, le libéral Joe Hockey, qu'elle mettrait cette thématique au cœur de sa présidence, un objectif de croissance additionnelle de 2% du PIB mondial d'ici à 2018 a été fixé en février à Sydney. En septembre, à Cairns, il semblait bien ambitieux du fait du ralentissement européen. L'Organisation de coopération et de développement économique et le Fonds monétaire international, dans son rapport d'octobre, ont d'ailleurs depuis revu à la baisse leurs prévisions. Aiguillonné par l'Australie, qui a connu un quart de siècle de croissance ininterrompue mais voit son modèle exportateur s'essouffler, les membres du G20 ont dès lors mis les bouchées doubles pour identifier outils et plans d'action susceptibles de faire mieux que l'objectif fixé à Sydney. Au programme, un surcroît d'investissement dans les infrastructures, une plus grande déréglementation des secteurs des biens et des services et des mesures de libéralisation des marchés du travail. Par ailleurs, le G20 devrait s'engager sur une réduction de 25% de l'écart de taux d'emploi entre les hommes et les femmes. Les thèmes de friction ne manquent pas. Les Américains devraient de nouveau demander que les pays européens en excédent budgétaire fassent de la relance. C'est un sujet de fâcherie avec l'Allemagne, très attachée à l'assainissement des finances publiques en zone euro. Le monde ne peut pas se permettre une décennie perdue en Europe, déclarait Jack Lew, le secrétaire américain au Trésor, mercredi 12 novembre, appelant les Européens à agir pour éviter que la région ne s'enfonce dans un déclin plus profond. Créé en 1999 après une série de crises financières et reformaté en 2008 après la faillite de Lehman Brothers par les chefs d'État et de gouvernement, le G20 a abouti ces dernières années à des avancées majeures dans le domaine de la fiscalité. Bon, je vous rappelle l'article qu'on lisait tout à l'heure parce que c'est un peu être optimiste que d'annoncer les choses comme ça. Alors évidemment, il y a toujours des déclarations sur la transparence internationale, la lutte anticorruption, la lutte anti-blanchiment, la lutte contre l'optimisation fiscale, etc. Bon, il sort de tout ça un petit peu de réglementation bancaire et financière, mais c'est comme la lutte contre le climat. On réussit peut-être à éviter que le réchauffement se fasse à 0,001 degré quand il faut en viser 2. Le sommet de Brisbane devrait permettre de nouveaux progrès en matière fiscale et donner l'occasion de quelques débats à faire dans ce domaine, notamment le shadow banking, hein, la finance de l'ombre, et évidemment voir le G20 travailler sur les risques liés à la concentration de la gestion d'actifs. Voilà des vrais problèmes, voilà des vraies questions. Regardez dans les conclusions ce qu'il en est sorti, absolument rien. Sur ces... Et ça, c'est la clé, c'est exactement ce dont on parle depuis des semaines. Si on n'arrive pas à faire cette réglementation, si on n'arrive pas à une forme de gouvernance mondiale en matière de réglementation et de fiscalité, nous courons à notre perte, c'est-à-dire à la libéralisation totale du marché qui produira ses propres règles et qui se fiche pas mal de la démocratie.
D'ailleurs, on peut raisonnablement prévoir que de toutes les mesures prévues, celles qui tendent à la libéralisation du marché du travail, c'est-à-dire payer ce que vous pouvez ou ce que vous voulez aux gens qui veulent ou peuvent travailler pour vous, c'est probablement ce qui va se faire en premier.
C'est un très bon exemple de l'absence de réglementation internationale. Des questions sensibles comme la restructuration des dettes publiques, des moyens de remettre le commerce international sur les rails ou le changement climatique figurent aussi à l'agenda. Hein? C'est bien que ça figure à l'agenda. Paris, qui accueillera la conférence sur le climat de décembre 2015, alors je peux vous dire d'avance qu'il en sortira non plus, mais absolument rien, se réjouit d'avoir obtenu avec d'autres pays développés, dont l'Allemagne, que le futur communiqué final du G20 mentionne cette question non loin de l'énergie. Je fais une petite parenthèse pour signaler que les communiqués finaux, car le pluriel de final c'est final et non pas finaux, du G20 est écrit avant le G20, c'est quand même extraordinaire.
Oui, hein, pour savoir si on va s'y rendre.
C'est un bon corollaire de cet article. Voilà. J'ai beaucoup bavassé au milieu, donc je m'arrête là, mais tout a été dit.
Oui, le G20, c'est quand même une belle sortie propre si vous êtes premier ministre ou président de quelque chose. Allez, on revient aux nouvelles brèves. Je commence tout de suite en vous parlant de la Lune, puisque c'est la prochaine mission qui va être financée par Sociofinancement. On en parlait, c'est le site Internet où on peut mettre un petit peu d'argent pour lancer un projet. Eh bien, il y a une mission qui veut planter une sonde dans le sol lunaire entre 20 et 100 mètres de profondeur pour aller chercher une vieille roche et voir de quoi ça avait l'air l'univers il y a quelques milliards d'années. Alors, si vous voulez participer à ça, ben vous envoyez 18$ et pour 18$, on va vous permettre de mettre quelque chose sur le disque dur de la sonde. Vous voulez envoyer, je ne sais pas moi, Angèle Arsenault sur la Lune. Alors, vous allez pouvoir le faire. Et pour un peu plus cher, vous allez pouvoir mettre un cheveu, par exemple, ou quelque chose comme ça. Voilà.
On aurait pu demander à l'Auto-Québec de participer, mais malheureusement, son bénéfice a cédé 9,2% au deuxième trimestre. Hein. C'est... des reculs de plus de 10% des revenus trimestriels qui ont été observés dans tous ces secteurs d'activité, les loteries, les casinos, les loteries vidéo et les bingos. Personnellement, je m'en réjouis.
Les prix Pinocchio 2014 ont été remis à trois grandes entreprises. Les prix Pinocchio sanctionnent l'impact environnemental ou social de grandes entreprises et les récipiendaires sont Shell, Gaz de France, Suez et Samsung. Ils ont gagné des prix qui s'appellent par exemple, je ne sais pas moi, un pour tous, tous pour moi. Ou encore « Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais ». Alors, c'est trois grandes sociétés donc qui se sont toutes défendues d'ailleurs par la suite.
Bon, pour nous consoler, sachez qu'apprendre une nouvelle langue renforce le cerveau. Et ben, même si le cerveau, c'est pas un muscle, ben, l'apprentissage d'une nouvelle langue permet de le renforcer. C'est une étude qui a été menée à l'université de Pennsylvanie. Et c'est un professeur de psychologie et de linguistique qui s'appelle M. Ping Li, peut-être parle-t-il le mandarin ou le cantonais, qui le démontre.
On parle souvent, en fait, je parle souvent à cette émission de répartition de la richesse, de concentration de l'argent dans de moins en moins de mains. Alors, je me sentirais intellectuellement malhonnête si je faisais pas écho à une bonne nouvelle. Actuellement, au Canada, les 1% les plus riches gagnent un peu moins de la somme totale de l'argent gagné par les Canadiens, c'est-à-dire qu'ils occupent une moins grande place dans l'économie. Il y a un léger gain de ce côté-là, donc.
Nous voilà rassurés. Ils vont sûrement envoyer d'ailleurs des colis pour les fêtes. Mais sachez que Post Canada est prêt. Alors, en même temps qu'on s'apprête à demander aux facteurs de rester chez eux, eh bien, on a embauché 3000 employés saisonniers pour prévoir, évidemment, l'augmentation du volume de livraison et pour aider le Père Noël.
J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Actuellement, au Canada, il y a 2% plus de femmes administratrices dans les 30 plus grandes, les 500 plus grandes sociétés canadiennes. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'elles ne sont jamais que 17% de l'ensemble du total pour le moment.
Ah, pourvu qu'elles rentrent. Et la Grèce, elle sort de la récession au premier trimestre. Hein. C'est une bonne nouvelle. Et deux trimestres de croissance entre avril et septembre. Hein. C'est officiel et ça a été vérifié par les instances internationales.
Très, très, très mauvaise nouvelle, celle-là. Pour la Côte-Nord, de manière générale, et le plan Nord au total, Cliff Natural Resources a décidé qu'elle pourrait fermer. Elle a décidé qu'elle pourrait fermer, vous me direz, c'est une non-nouvelle, mais on s'oriente vraiment vers ça. La mine du lac Bloom, près de Fermont, qui est une grande, grande mine de fer sur la Côte-Nord, c'est une très, très mauvaise nouvelle, puisqu'il y a 539 travailleurs qui vont en fly-in, fly-out. On en parlait la semaine dernière, c'est-à-dire qu'ils ne résident pas sur le lieu de la mine, mais ils se déplacent en avion pour aller travailler aux deux semaines, et 40 employés locaux.
Bien, je vous parlais tout à l'heure du cerveau et de sa capacité à apprendre, enfin c'est l'intérêt qu'il y avait à apprendre une langue étrangère, mais savez-vous qu'on peut modifier la capacité de stockage du cerveau? Ça m'amuse un peu parce que quand on sait qu'on utilise 10% de ses capacités, c'est peut-être pas utile, mais des chercheurs de McGill ont identifié une protéine qui freine l'activité cérébrale. Eh bien si on la retire, le fonctionnement et le rappel de mémoire seront améliorés. Donc je cours me faire ouvrir la boîte crânienne.
Ah, tout de suite, moi aussi. Si vous voulez ouvrir un dépanneur demain, vous cherchez l'endroit où vous pouvez payer le plus cher de loyer. Non, on veut un dépanneur de classe quand même. Eh bien, sachez que actuellement la 5e avenue à New York est redevenue la rue la plus chère du monde pour louer un espace. Et elle a détrôné donc une rue de Hong Kong qui l'avait elle-même détrônée l'année d'avant. Les Champs-Élysées sont toujours 3e. Et là, on parle de plusieurs milliers de dollars le mètre carré. C'est hallucinant de payer les loyers.
Vous savez que l'usage du portable multiplie par 3 le risque de gliome. Hein. Le gliome, c'est quand même une petite tumeur au cerveau. Alors, raccrocher. Moi, je voudrais juste vous dire une dernière chose, parce qu'on parlait de Brisbane tout à l'heure. Petite note philologique. Vous savez quelle est l'origine de Sydney? Ce que ça veut dire Sydney, pas la capitale, mais la ville australienne?
Non.
Eh bien, ça vient de Saint-Denis, que nos amis anglais n'arrivaient pas à prononcer.
À Sydney, oui. Pour Saint-Denis. Ah, tiens donc. Alors, nous vous avons présenté l'édition du 20 novembre 2014 de Kiosque Magazine. On vous donne rendez-vous.